Et maintenant ?
Et oui, et maintenant ?
Maintenant, écoutez lire. Faisons une petite pause pour l'été et retrouvons les auteurs amateurs qui ont répondu à l'appel de Radio Alto. Ils nous ouvrent leur univers et nous font entendre leur petite musique. Écoutons. Aujourd'hui, de Céline Pâtissier, L'ingénieur et la mécanique du cœur. De Michel Curot, Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Et de Marie-Thérèse Visantin, Axel.
L'ingénieur et la mécanique du cœur, par Céline Pâtissier. Au pied de l'arc à l'eau vivait une sorcière blanche avec son chat, appelé Monsieur le Chat. Chaque jour, elle confectionnait des tisanes et des filtres pour aider les bojus. Si vous aviez des règles douloureuses, elle préparait une infusion de framboisier à boire matin et soir pendant les jours rouges, et rien ne vous empêchait plus d'avoir de belles journées. Pour un chagrin d'amour, elle vous apprenait une prière et attirait votre attention sur les saisons qui passent et qui reviennent. Alors, le soleil revenait dans vos yeux. Si un voisin détestable vous gâchait la vie, elle vous offrait la recette d'un gâteau doux et sucré à partager avec le grognon, et vos relations s'arrangeaient aussitôt. C'est cela une sorcière blanche, une femme simple qui connaît les secrets de la nature, de la magie, et des cœurs. Un matin, la sorcière s'éveilla en même temps que le soleil, comme chaque jour de sa vie de sorcière. Mais ce jour-là ne serait pas comme les autres. Elle sentit, dans sa poitrine, comme une gêne. « Bonjour, monsieur le chat. Croyez-vous que ce jour soit différent des autres ?»« Bonjour, ma fée des bois. Je ne sens rien de différent ce matin. » Il fait encore frais, mais il fera beau jusqu'au soir. Vous aurez la visite d'une fermière dont les poules ne pondent plus, et d'un adolescent boutonneux. Alors, il faut que je me mette à l'ouvrage. Elle sentit une grande fatigue l'envahir, mais n'en fit pas cas. Une sorcière blanche ne peut pas être fatiguée. Elle n'avait jamais entendu de telles histoires, pas même au congrès annuel des sorcières. Elle travailla donc tout le jour. Le lendemain, la gêne, dans sa poitrine, se transforma en douleur et la fatigue en épuisement. Monsieur le chat avait dit que ce jour ne serait pas comme les autres, et il avait annoncé la venue d'une vieille femme bienveillante. Comme personne n'était venu en début d'après-midi, et qu'elle souffrait beaucoup, la sorcière décida de se reposer sur sa petite terrasse. C'est alors qu'elle s'évanouit. Monsieur le chat ne perdit pas son calme et caressa les joues de la sorcière de ses pelotes. La sorcière ouvrit les yeux et lâcha, dans un souffle, « Je vous en prie, monsieur le chat, allez chercher la maîtresse des sorcières des Bauges. Je ne me sens même pas la force de téléphoner. » Le chat revint juste avant que les derniers rayons du soleil ne s'éteignent, accompagné d'une femme bienveillante. Ils aidèrent la sorcière blanche à entrer dans la maison et préparèrent une infusion de mélisse. « Que t'arrive-t-il, mon enfant ? Je me sens si fatiguée, et puis j'ai mal là. » Et elle posa la pulpe de ses doigts juste sous son sein gauche. « Qui s'occupe de ton cœur ? Il y a Monsieur le Chat et toute la gratitude des gens que je sers. Allons, pour s'occuper de la mécanique du cœur d'une sorcière blanche, un chat, aussi savant soit-il, et la gentillesse des gens ne suffisent pas. Il te faut un ouvrier qui s'y connaisse en mécanique du cœur. Je vais te donner un filtre en attendant que tu recrutes le meilleur ouvrier pour toi. Mais ne perds pas trop de temps. Si tu ne le trouves pas, ton cœur ne te fera plus souffrir et il deviendra tout sec. L'aigreur et les regrets te grignoteront de l'intérieur et tu pourrais devenir une sorcière noire. Horrifiée, elle but d'un trait la potion, puis consulta Internet. Elle trouva des sites spécialisés en ouvriers experts en mécanique du cœur. Elle distribua des rendez-vous toutes les heures du jour suivant à une dizaine d'entre eux. Elle décida de ne pas prévoir de pause déjeuner pour gagner du temps. Au coucher du soleil, elle avait fait son choix et envoya un texto à l'heureux élu. Alors, l'ouvrier vint chaque soir avec une régularité de métronome. Il était si ponctuel qu'il finit par provoquer chez la sorcière blanche un ennui qui l'aurait tué bien plus sûrement que ses douleurs de poitrine. Soucieuse, la sorcière décrocha son téléphone pour appeler sa maîtresse. « J'ai fait comme vous m'avez dit. Mon ouvrier est très assidu, mais il est surtout ennuyeux à mourir. Est-ce que je peux en changer ?»« Bien sûr, autant de fois que tu le souhaites. » La sorcière blanche raccrocha toute guillerette. Elle fit un cadeau à son ouvrier assidu et le congédia. Sur Internet, elle trouva un autre artisan avec une jolie figure et des muscles rassurants. Il arriva rapidement avec une caisse à outils monstrueuse, remplie d'outils monstrueux. Effarée, la sorcière blanche ne le laissa même pas franchir le seuil et le renvoya aussitôt. Très contrariée, elle s'assit sur sa terrasse et demanda à Monsieur le Chat « Comment vais-je faire si je ne trouve pas un bon ouvrier pour s'occuper de la mécanique de mon cœur ? Je ne veux pas devenir une sorcière noire. » Internet n'est peut-être pas le meilleur endroit pour trouver un bon ouvrier. Excellente idée, monsieur le chat. Je file au village. Elle enfila ses converses rouges et une veste en jean. Elle déambula une première fois et scruta, derrière ses lunettes de soleil, tous les hommes qui passaient près d'elle. Elle entra dans la boulangerie et demanda, tout en s'achetant un croissant, où elle pourrait trouver un ouvrier expert en mécanique du cœur. La boulangère éclata de rire en faisant un clin d'œil entendu à la sorcière blanche et en lui souhaitant une bonne journée. Interloquée et vexée, la sorcière se dirigea vers la fleuriste. Quand elle entendit qu'on criait, derrière elle, « Mademoiselle la sorcière !» Elle se retourna et reconnut un jeune homme qui l'avait déjà consulté pour des maux de ventre. Il tendait un carré de tissu qu'il agitait du bout des doigts et venait vers elle. « Vous avez perdu ceci ?» La sorcière blanche sentit un frémissement dans sa poitrine et songea, paniquée, que le filtre cessait sans doute de faire effet. « Merci, monsieur. C'est mon mouchoir fétiche. Comment puis-je vous remercier ?»«
Oh, je vous en prie, ce n'est vraiment rien. »«
Comment va votre ventre ?»«
Depuis que j'ai perdu mon travail, je n'ai plus mal. »«
Un mal pour un bien ?» asséna la sorcière blanche. « Et quel est votre métier déjà ?»«
Je suis ingénieur, mademoiselle. »«
Ingénieur ? Vous y connaissez-vous en mécanique du cœur ?»«
Eh bien, ma foi, avec quelques recherches sur Internet, je devrais m'en sortir. »«
Alors, monsieur l'ingénieur, vous êtes embauché. Venez chaque jour réviser la mécanique de mon cœur et vous serez très justement payé. » L'ingénieur serra vigoureusement la main de la sorcière blanche et promit d'être à l'heure le soir même. Ainsi, chaque jour, il venait chez elle, tombant toujours au bon moment, apportant un petit cadeau ravissant. Une fleur cueillie en chemin, une poignée de noisettes, un cake au chocolat. De fil en aiguille, ils apprirent à se connaître.
Ses connaissances étant au début très incertaines, ce ne fut pas sans mal.
Un jour, il se trompa dans le protocole et le cœur de la sorcière blanche s'arrêta.
Même Monsieur le Chat fut à deux griffes de paniquer. Mais de jour en jour, ses connaissances s'amélioraient. La sorcière s'était mise à attendre sa venue avec une grande impatience. Son cœur battait de mieux en mieux et toute douleur avait disparu. Les mois passèrent dans l'allégresse, jusqu'à un matin où l'ingénieur demanda une faveur à la sorcière blanche. « Je voudrais prendre 3 semaines de vacances. »
« 3 semaines ? Mais c'est impossible ! Je ne tiens pas à me transformer en sorcière noire !»«
Je vais faire un gros entretien avant de partir, et votre cœur tiendra le coup. »«
Comment pouvez-vous en être sûr ? Vous manquez cruellement d'expérience, je m'en souviens encore. »«
Je vous en prie, faites-moi confiance. » La voix de l'ingénieur restait douce, mais celle de la sorcière blanche commençait à monter dans les aigus.
« Mais il est hors de question que je me passe de vos services pendant 3 semaines !»«
Je ne vous aurais jamais cru capricieuse, » dit-il. Et il tourna les talons. Elle fut complètement ahurie pendant quelques jours et se trompa même dans la préparation d'une potion.
Elle déclencha de l'acné juvénile chez une pauvre truie qui avait des crevasses sur les tétines.
Mais au bout du 5e jour, elle constata qu'elle n'était pas fatiguée et que son cœur ne la faisait pas souffrir. Au contraire, il marchait très bien. Par précaution, elle raconta ses déconvenues à la vieille femme bienveillante qui la rassura et lui révéla même un secret. Le visage de la sorcière, qui était déjà fort joli, s'illumina. Au bout de 3 semaines, Monsieur le Chat annonça le retour de l'ingénieur. La sorcière mit sa plus belle robe et entreprit de préparer un repas délicieux. Quand l'ingénieur frappa à la porte, la mécanique du cœur de la sorcière blanche s'emballa. Elle ouvrit grand la porte et déclara
« Nom d'une encolie séchée ! Il était temps que vous arriviez ! La mécanique de mon cœur a dératé !
Faites-moi voir cela ! Vous savez, ma maîtresse m'a confié un secret pendant votre absence. » L'ingénieur suspendit son geste et regarda la sorcière blanche dans les yeux. « Il semble que vous soyez le seul à pouvoir vous occuper de la mécanique de mon cœur, bien que vous n'étiez pas du tout qualifié pour cela au départ. Parce que mon cœur, lui-même, vous a choisi. Il vous aime et moi aussi. Il ne désire que vous et moi aussi. Promettez-moi de ne plus partir en vacances si longtemps. »
« Ma jolie sorcière, mon cœur aussi a besoin de vous.
C'est promis, je ne partirai plus. »
Sur ces mots, il déposa un baiser sur les douces lèvres de sa sorcière et leurs cœurs s'emballèrent à l'unisson.
Est-ce ainsi que les hommes vivent ?
De Michel Curot. Bon, est-ce que j'ai bien tout pris ce qu'il me faut ? Lapin découpé, tranche de lard, oignon, bouquet garni, carottes, champignons. Ah non, le vin, blanc et sec. Ouvrir la bouteille. Tiens, si j'écoutais la radio en cuisinant.
Tension entre l'Iran et les États-Unis, jusqu'où ira Trump.
La cocotte en fonte, c'est l'idéal pour les viandes en sauce. Allumer la plaque, faire chauffer l'huile et faire revenir les morceaux de lapin.
En Turquie, le président Erdogan veut s'en prendre à la communauté kurde. Quelle peut être la position de la France ?
Oh là, baissez la température, la viande ne doit pas brûler. Bon, surveiller, retourner tout en épluchant les oignons et en les éminçant. Un poème d'Aragon mis en musique par Léo Ferré me vient en tête.
C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens.
Évidemment, les oignons me font pleurer.
Tout changer de pôle et d'épaule, la pièce était-elle au monde drôle ?
Drôle la pièce ? Certainement pas. L'actualité d'aujourd'hui ne l'est pas non plus.
Si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien.
Qui avait-il à comprendre de l'horreur de cette guerre ? Pour la viande, c'est bon. Ajoutez les oignons, les faire dorer un peu. Coupez les lardons. Un autre poème me revient, toujours Aragon. Il a 20 ans quand il part pour le front.
Tu n'en reviendras pas, toi.
qui courait les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu. Quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille.
Voilà ce qu'il imaginait en regardant dans le train ses compagnons de voyage. Pensait-il que lui non plus ne reviendrait pas ?
Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancée de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées.
Éteins la radio, ces textes d'Aragon te trottent dans la tête. Des guerres, des conflits, des menaces, les hommes sont fous. Elle avait raison, l'amie de Stéphane Hacher.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent.
Elle voulait déjeuner en paix, et moi je veux cuisiner en paix. Le souvenir de ma grand-mère maternelle arrive soudain. C'est elle qui m'a appris à cuisiner le lapin. Ma pauvre petite grand-mère, si faible, alors, mais si courageuse. J'avais passé les vacances scolaires avec elle dans son petit appartement un peu sombre du Châtelard et mes parents devaient venir me chercher. Elle avait décidé de faire son fameux lapin en sauce, mais c'était moi qui cuisinais sous son regard attentif.
Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle.
Voici un moment important. Ôter les morceaux de lapin, la cuillère de farine à présent. Faire roussir un peu, mais pas trop. Ma grand-mère, elle, faisait vraiment roussir sa farine comme sa viande et sa sauce était vraiment brune. Quand mes parents mangeront le lapin que j'avais cuisiné ce dimanche-là, ils diront « Ce n'est pas le lapin de mes mères !» J'avais pourtant suivi scrupuleusement ces directives. Déglacé avec le vin blanc, bien remué, ajouter le bouquet garni, un verre d'eau, remettre la viande dans la cocotte.
Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du piano là.
J'ai mis longtemps à la comprendre cette chanson. Un jour j'ai su. Aragon, avec une année de médecine, était resté à l'arrière des combats comme médecin militaire. Après l'armistice, il fut nommé médecin de bordel militaire dans la Sarre, occupé par l'armée française.
Le ciel était gris de nuages. Il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais.
Aragon est revenu de cette guerre. Mon grand-père paternel, natif du Châtelard, en est revenu lui aussi et a épousé ma grand-mère, devenue pendant la guerre institutrice à l'école de son village, dans la maison Aymonier. Bon, il est temps d'éplucher et d'émincer les carottes et les champignons. Une fois les légumes avec la viande, il n'y aura plus qu'à surveiller la cuisson. Mon grand-père est revenu, oui, mais il avait été gazé et souffrait de graves difficultés respiratoires. Il avait aussi été blessé à la jambe et en gardait une boiterie. « Mais il était vivant, tous n'avaient pas eu cette chance !» disait ma grand-mère lorsqu'elle évoquait son retour, l'émotion se lisant encore dans ses yeux gris. Elle racontait que le métier de bûcheron, c'était fini pour lui, mais il y avait des veuves à aider. Alors il donnait des coups de main comme il pouvait pour les jardins, les pommes de terre, les foins. Il ramenait du lait, des œufs, un morceau de thon, des légumes. Et puis, elle avait son petit logement d'institutrice au Vieux-Bourg, son salaire. On n'était pas à plaindre. Bon, je peux mettre le couvercle à présent, de fil en aiguille, d'ingrédient en ingrédient. Deux chansons en souvenir, il n'y a plus qu'à laisser mijoter. Mais les mauvais jours, mon grand-père sombrait dans la mélancolie. Il pensait à ceux qu'il aimait et qui n'étaient pas revenus. Son frère, ses cousins, ses amis. Ceux qui auront leur nom sur le monument aux morts érigé en 1924 auprès de Foire.
Votre nom s'inscrit déjà. Vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places déjà. Le souvenir de vos amours s'efface déjà. Vous n'êtes plus que pour avoir péri.
Mon père avait 8 ans quand mon grand-père est mort une dizaine d'années après son retour de guerre. Ma grand-mère ne s'est pas remariée et toute sa vie, elle a gardé son portrait photographique en tenue militaire au-dessus de la tête de son lit.
Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent comme des soleils révolus.
Axel, Marie-Thérèse Visentin. Vite, vite, dépêche-toi, tu te coifferas plus tard. Je veux pas être en retard. La linaigrette essaie d'activer sa sœur qui passe son temps à se regarder dans le miroir à queue. Tu sais, ça va être un grand moment. Elles seront toutes là. Elle se relève en faisant une petite moue, secoue ses cheveux pour leur donner plus de volume et suit sa sœur dans la vallée du Chéran. Elles se font doubler par un bouquet de fleurs d'arnica, pétales au vent, qui se dirige dans la vallée. Elles ont juste le temps de dire en passant « C'est très important. Nous avons été tellement cueillis, on a fini par interdire notre cueillette dans les Alpes. C'est vrai qu'on a des vertus que beaucoup nous envient. Nous sommes devenus des espèces indispensables à la santé des beaux jus et notre pouvoir s'étend bien au-delà de la région. Nous avons une réputation internationale, dit-elle en relevant fièrement le capitule. » Oui, mais notre espèce devient de plus en plus rare. Il y a eu trop d'agriculture intensive, trop de demandes des laboratoires. Si on ne fait rien, on va disparaître, répond sa copine avec la voix mêlée d'angoisse et de colère. Puis le bouquet jaune, les pétales volant au vent, s'en va, conscient que ce rendez-vous est un moment déterminant pour les fleurs d'arnica et toutes les autres espèces. Un bruit de course se fait sentir derrière elle. Un groupe de doroniques, de reines des prés, de tanaisies, de verâtres arrive à toute vitesse. Ils doublent les petites linaigrettes et ces fleurs laissent derrière elles des parfums sucrés et amers qui embaument le pâturage. Puis arrive une foule immense violette et rosée. Des gentianes pourpres, des valérianes, des grandes astrances, des achillées millefeuilles, avancent en remuant leurs tiges et en balançant leurs capitules composés, suivis de petites gentianes bleues qui avancent en rasant le sol. Les fritillaires se penchent vers elles, les encouragent avec un grand sourire. « N'ayez aucune crainte, on vous attendra !» Et ces petites jupes à carreaux frétillantes s'éloignent. Des fleurs multicolores de plus en plus nombreuses s'accumulent dans le fond de la vallée au-dessus du village d'École en Bauges. Des fleurs, des couleurs, des senteurs, des frémissements dans tous les recoins. Sur les rochers, des joubarbes s'étalent au soleil pour profiter de la vue sur la foule multicolore et voir les personnalités qui doivent prendre la parole. Au fond de l'alpage de l'Arcluse, gentianes, lys martagon, valérianes et grandes astrances font face à la foule qui arrive du fond de la vallée. Toutes sont motivées et engagées et ne veulent perdre aucun des propos qui vont être tenus, des témoignages d'expérience et d'anecdotes qui vont enrichir le discours attendu. Ces quatre grandes fleurs s'avancent. Quelques insectes viennent savourer leur parfum et attendent impatiemment de déguster le pollen déposé délicatement sur leurs étamines. Si nous sommes toutes là aujourd'hui, c'est qu'il est grand temps de sensibiliser toutes les espèces qui vivent dans ce massif des Bauges et d'agir afin que notre action déborde de notre région. Nous avons choisi ce lieu de rassemblement au-dessus de ce beau village, lieu symbolique, car il est la porte d'entrée du parc naturel régional. Ce lieu est d'une grande richesse car il a même obtenu le label Géoparc. Nous en sommes fiers et en même temps très inquiètes. La gentiane se pose un instant pour regarder la foule colorée qui attend la suite du discours. Les insectes se font de plus en plus rares. Nous en ressentons nous aussi les conséquences, même si nous vivons dans un espace protégé. Ils sont de plus en plus condamnés par des produits qui sont jetés dans les champs, par des produits qui remontent des villes et les empoisonnent. Ces produits détruisent les insectes, mais ils sont aussi accumulés dans le sol et détruisent les espèces bactériennes qui y vivent. Sans elles, nous ne pourrons pas survivre. Nous avons besoin de cette flore microscopique pour nous nourrir, pour assimiler ce que le sol nous donne, pour pousser. La gentiane a la voix qui tremble, un sanglot l'envahit et aucune parole ne peut plus être prononcée. Le silence remplace petit à petit le remue-ménage du début. Les regards s'échangent entre Tussilage, Euphrèse, Lysimaque, Mélampyre. On sent l'inquiétude monter. Même le groupe des épilobes, venu en masse avec un esprit très festif, commence à comprendre l'enjeu qui pèse sur leur espèce. Et des chuchotements se font entendre ça et là. La grande astrance ne laisse pas le silence s'installer. Il faut considérer la question avec une vision systémique. Toutes les espèces sont interdépendantes. Si les insectes viennent à manquer, qui va nous aider dans la pollinisation? Que vont alors manger les chauves-souris et les oiseaux? Les terrains plus pauvres en bactéries ou en champignons, comment vont-ils alimenter les espèces végétales? Le lys martagon apporte un élément supplémentaire. Les étés sont de plus en plus chauds, même dans notre belle montagne. Les vaches, les moutons mangent nos tiges, nos fleurs, et arrachent de plus en plus nos racines pour se nourrir, lorsque nous n'avons plus d'autres éléments à leur fournir. Bientôt, nous ne serons plus assez nombreuses pour alimenter les espèces bovines dans les pâturages, car il nous faudra beaucoup de temps pour repeupler le territoire. Et serons-nous capables de le faire? La Doronique, après avoir bien lissé tous ses pétales, se lève et pose une question d'un air déterminé. Mais qui est responsable? Que pouvons-nous faire? Toutes se retournent vers la Doronique, qui s'immobilise, la tige droite. Le Vératre lui lance un regard méprisant. Celle-là, elle part toujours pour rien dire. La Valériane prend alors la parole, et ce sont des effluves de senteurs douces et envoûtantes qui se dispersent dans la foule de fleurs, qui se densifient de plus en plus. Des espèces sont arrivées après de longues traversées dans les alpages, en passant parfois sur des arêtes rocheuses. Toutes s'immobilisent pour écouter cette belle fleur au capitule tellement beau et apprécié par les insectes et les laboratoires. Sur notre planète, les humains ont pris le pouvoir et se sont appropriés les terrains, les vallées, les pâturages. Les cueillettes que nous consentions à leur offrir ne leur suffisent plus. Alors ils ont défriché des zones entières pour semer des graines et cultiver des céréales, des légumes, des fleurs. Mais ces graines ont été modifiées et les plantes qui poussent ne sont que des espèces très éloignées des plantes originelles. Pour rentabiliser les productions, ils ont ajouté des produits chimiques synthétiques qui sont nuisibles au sol, aux insectes et à nous aussi. Nous sommes arrivés à un stade où il faudrait changer tellement de choses, sous peine de voir notre vie mise en danger, et la leur aussi, mais ils n'en ont pas encore pris conscience. Une rumeur remonte en cette masse fleurie multicolore qui s'intensifie peu à peu. Puis on commence à entendre des mots, des phrases. « Nous voulons vivre, nous voulons vivre, nous avons tous besoin les uns des autres, tous ensemble, tous ensemble !» Petit à petit, ces cris résonnent à l'unisson dans la vallée du Chéran. Nous allons leur montrer qu'on n'est pas d'accord. Alors, nous allons envahir la grande ville de Chambéry. Je vous propose de faire ce grand rassemblement fin juin, le jour de la Saint-Jean. C'est le moment où nous aurons accumulé un maximum d'énergie grâce à la Terre et au cosmos, et nous serons invincibles. Le lys martagon suggère alors une idée et annonce sur un ton érudit « À cette date, la musique jaillit dans tous les coins. Il me semble que les humains honorent eux aussi cette date pour se rassembler et jouer avec des instruments de musique tous aussi étranges les uns que les autres. Parfois, ils chantent aussi, et la fête dure une partie de la nuit. » C'est alors que des notes de musique commencent à s'élever dans la foule. Les marguerites font des effets de voix avec les doroniques et leur chant marque un rythme régulier et léger. Les fleurs de digital s'enfoncent et bougent comme si une main appuyait sur les touches d'un piano. Des voix plus aiguës montent des centaurées et des rinantes. Des sons graves s'élèvent des corolles des gentianes. Et de fil en aiguille, toutes les fleurs venues pour ce rassemblement fredonnent, chantent, passent du rire au chant, entonnent des airs envoûtants, se dandinent, se tortillent. Tout ce beau monde s'engage dans une musique qui plane sur la vallée, remonte sur les massifs, fait valser les chocards dans le ciel au-dessus des falaises. Même les sapins et les épicéas sur les hauteurs agitent leurs branches et se mettent à danser au rythme de cette mélodie. C'est alors qu'un petit pétale arraché par le vent se pose sur le visage d'Axel qui s'était endormi au soleil dans la béatitude de la vallée. Il ouvre un œil. Une orchidée, aux couleurs allant du rose au violet, dresse son épi face à son visage. Ses lèvres charnues semblent chanter. Mais je n'entends rien. Ce silence, j'ai dû rêver. Il la regarde, s'assoit, se frotte les yeux, se recoiffe et se relève lentement. Il se dirige à pas lents vers le chemin de l'école en faisant de grands pas pour ne pas piétiner les fleurs qui jalonnent le parcours. « Je n'avais jamais remarqué que vous étiez aussi belle et aussi importante pour nous. Je ne vous oublierai jamais. »
Vous pouvez retrouver ces textes et d'autres dans le recueil édité par Radio Alto et en vente au studio à l'Échrenne. Nous avons entendu de Céline Pâtissier « L'ingénieur et la mécanique du cœur » de Michel Cureau « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» et de Marie-Thérèse Visantin « Axel ». C'était « Écoutez lire ». Une émission de Radio Alto.